Il y a quelques semaines, j'ai marché jusqu'à la CCI du Havre, où j'ai été invitée pour découvrir une fondation dont je n'avais jamais entendu parler. C'est Valérie Schmitt, bénévole de la fondation, qui m'a conviée à cet événement. Peut-être que vous vous en souvenez, je l'avais interviewée sur un épisode sur la psychogénéalogie dans ma chronique « Être bien à Noël ». Et aujourd'hui, je change un peu de domaine. Parce que oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais ici, c'est Lisa. Et d'habitude, je parle de santé et de bien-être. Mais aujourd'hui, je me retrouve au cœur de l'entrepreneuriat, de la formation, du travail, quoi. Le travail, c'est un sacré mot. Je me souviens que lorsque j'étais au lycée, en cours de philosophie, nous avions étudié le travail. Et le mot « travail », il vient du latin « tripalium ». Le tripalium, c'était un instrument de torture à trois pattes. C'est assez fun, n'est-ce pas? Conclusion, si on parle de travail à l'époque du tripalium, le travail n'est que labeur et souffrance. Ah, là 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 là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment est-ce que vous vivez, vous, dans votre travail? Quel est votre rapport à celui-ci? Est-ce que c'est une relation qui est plutôt conflictuelle, un amour passionnel, voire même inconditionnel? Personnellement, j'ai longtemps détesté ça, travailler. J'ai longtemps vécu ça comme un labeur. Mes années collège et ma classe de seconde ont été d'une lourdeur sans nom, jusqu'au jour où je suis arrivée en classe littéraire. Et là, littérature, langue, philosophie sont venues me faire leur présentation. Et soudainement, le travail, les études n'ont plus jamais été vécues comme synonymes de souffrance et de douleur. Depuis cet instant, j'ai compris que le travail n'est jamais véritablement ressenti comme tel lorsqu'il est aimé et vécu pleinement, lorsqu'il est incarné. Eh bien, incarner son travail, vivre son activité professionnelle pleinement, avec le cœur, le corps et l'esprit, c'est un peu l'objectif final de la fondation de la seconde chance. La fameuse fondation dont je parlais au début de l'épisode. Là, finalement, je vous verbalise le bout de l'histoire, la happy end. Mais avant tout ça, avant d'atteindre cette incarnation et cette voie dans la vie professionnelle, il y a la vie, la vraie. La vie et ses batailles, ses épreuves, ses chutes et ses montagnes. Et c'est là que la fondation de la seconde chance, créée par Vincent Bolloré et Michel Giraud, entre en jeu. Depuis 28 ans, la fondation de la seconde chance accompagne et aide des personnes confrontées à des épreuves d'origine diverses, souvent lourdes et cumulatives, qui ont généré une situation de précarité, voire d'extrême précarité, mais qui refuse à la fois la fatalité de l'échec et la facilité de l'assistanat. Voilà à quoi sert la fondation de la seconde chance. Au final, cette fondation, c'est l'opportunité que chacun d'entre nous aimerait avoir pour se reconstruire, ou plutôt pour bâtir un avenir professionnel solide. Comment est-ce que ce coup de pouce est-il donné? Eh bien, il est accordé au terme d'une instruction rigoureuse qui leur permet de bénéficier d'une dotation financière et d'un parrainage professionnel et humain, jusqu'au terme de la réalisation de leur projet de rebond de vie. Je laisse, le temps d'un instant, son directeur, M. Tristan Villemain, vous présenter la Fondation de la Seconde Chance.
Eh bien, donc Tristan Villemain, la Fondation a été créée il y a 25 ans par Michel Giraud et M. Bolloré.
D'accord.
On aide des gens à rebondir dans la vie en donnant un coup de pouce financier et un coup de pouce humain par le biais d'un parrainage.
D'accord.
On œuvre en France pour des gens qui ont de 18 à 62 ans et qui souhaitent se remettre à travailler par le biais d'une formation, d'une création d'entreprise ou d'une reprise d'entreprise.
D'accord.
On a divisé la France en trois régions. Aujourd'hui, je recherche une personne pour gérer, pour s'occuper de la région Seine-et-Ouest.
D'accord.
Qui est relativement grande, dont dépend la Normandie, le Havre, où nous nous trouvons.
Oui, ok. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer, sur cette région, justement, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Parce qu'en fait, la France, tout le monde n'est pas pareil en France. La France est quand même à différentes cultures, différents états
Bien
d'esprit.
Sûr.
Est-ce que vous rencontrez des personnes avec des profils différents sur la région Normandie, avec des enjeux, des recherches, des quêtes différentes?
Je dirais, effectivement, chaque région de France est magnifique et a son histoire et ses problématiques. Je dirais, dans la région, on a énormément de demandes de création d'entreprises par rapport aux
D'accord.
autres régions.
Ok.
Sur des start-up comme des reprises d'entreprises classiques. Et donc, un environnement de travail très poussé autour de la création et de la reprise.
Okay.
Je dirais le sujet principal, c'est la mobilité. Parce que les gens habitent dans la région et leur clientèle se trouve peut-être dans d'autres villes. Leur formation se trouve peut-être dans d'autres villes, etc. Et il y a un vrai sujet mobilité, ouais.
D'accord. Et mobilité, du coup, au sein de la région, systématiquement, ou même plus large sur la zone ouest de façon générale ?
Oh, je dirais, non, le berceau est quand même assez impacté. On intervient énormément sur des, par exemple, de l'aide de vie, c'est-à-dire que la personne a une formation, elle est financée par un organisme, enfin, la région ou autre. On intervient sur des aides de vie pour que la personne puisse prendre un abonnement TGV, par exemple.
D'accord.
Pour aller à sa formation. De temps en temps, ça peut être un permis pour passer le permis de conduire pour avoir une voiture et ensuite aller à son travail. Okay. On intervient vraiment sur l'environnement de la personne.
Et c'est quoi exactement pour accompagner justement ces personnes qui changent de vie à cause d'une situation complexe, c'est quoi le processus d'accompagnement pour la Fondation ? Quel est le chemin que vous prenez pour accompagner ces personnes ?
Nous avons la joie de pouvoir travailler avec beaucoup de bénévoles en France.
Okay.
Celui qui souhaite devenir bénévole peut tout à fait contacter le coordinateur de la région. Il suffit d'aller sur le site internet fondationdeladeuxièmechance.org, et ne pas confondre avec les écoles de la deuxième chance. Ça ressemble phoniquement, mais c'est pas du tout la même chose. Et je souhaite développer la région sur la partie des bénévoles en mettant à disposition à des personnes qui le souhaitent des outils pour et à le proposer à des gens qui sont peut-être seniors en phase pré-retraite, à ceux qui se posent la question. Qu'est-ce que je fais de la suite après mon travail? Moi, j'ai besoin de toutes les compétences métiers et d'une écoute active dans le sens où on entend quand même des histoires lourdes. Il faut être capable de les entendre et de le partager avec les autres bénévoles de la Fondation pour prendre de bonnes décisions sur les dossiers, que ce soit sur la viabilité du projet, sur le financement du projet. Sur l'activité.
Et vous, entre guillemets, personnellement et professionnellement, qu'est-ce qui vous touche en fait dans le fait d'avoir rejoint cette fondation ? Pourquoi vous faites partie de la fondation de la deuxième chance ?
C'est inouï. Aujourd'hui, un des trésors qu'on puisse partager, c'est la communication et l'environnement. L'environnement de la personne. Mmh. Et quand je vois... avec les synergies en local, parce que c'est énormément de bouche-à-oreille, c'est du réseau. On tisse une grande toile. Ce qui marche, par exemple, ici, je le répercute dans d'autres régions. Et je retrouve des homologues dans des organismes locaux. Ils se connaissent tous, ou de plus en plus, et c'est une boule de neige. Et ça, c'est extraordinaire, parce que la force de la Fondation, c'est d'œuvrer en local grâce au réseau. Et au national, pour pouvoir refaire la même chose dans une autre région, une autre ville. Et les gens, de les voir communiquer entre eux et de partager des histoires de vie, de rebonds de vie, c'est inouï. C'est créé... aujourd'hui, on met un doigt vraiment sur la valorisation du bénévole, mais en réalité, c'est une vraie entreprise.
Okay.
Et c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec des gens en France... sur des rebondissements de projets à l'autre bout de la France. Je vous donne un exemple. Mmh. On a, par exemple, un dossier qui a besoin d'une expertise sur la partie financière, dans le cadre d'une création, par exemple, sur la lecture d'un compte de résultat ou d'un bilan. On fait signe à un bénévole parisien qui répond par mail dans l'heure. Comme une certification qui approuve que le dossier est valable. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite sur place en région, ça rassure les gens, ça crée du réseau, les gens demandent des nouvelles, alors dans telle région, voilà, enfin, c'est vraiment de la communication, le levier national.
Ok. Est-ce que vous avez des objectifs là pour la fondation sur les prochains, on va dire la prochaine année? Là, on est en début d'année encore. Est-ce que vous avez des objectifs?
Bien sûr qu'il y a des objectifs. Si on part du principe d'aider le maximum de gens, c'est de toucher un maximum de partenaires qui puissent contribuer financièrement, parce que 100% des contributions qui nous sont arrivées sont redistribuées aux lauréats. Donc plus on a d'argent, plus on peut aider. Il y a 25 ans, ça fonctionnait comme ça. Et aujourd'hui, on a des entreprises partenaires qui nous donnent par le biais des RSE, CSE, etc. et à qui on doit des contreparties. Et donc, dans ces moments-là, on organise des événements, on communique sur le bien que l'entreprise a réalisé en local. Et comme je vous disais tout de suite, le levier, c'est au national. Une entreprise qui a donné de l'argent, on revient vers elle avec les lauréats en faisant un événement et expliquant que grâce aux dons, tant de personnes ont été aidées. Et un partenaire peut aider de plusieurs manières. Alors évidemment, financièrement, ça c'est la première chose, parce que plus on a d'argent et plus on peut aider, mais en donnant accès à des bureaux par exemple. Parce que lorsqu'il y a des entretiens en région, de temps en temps, c'est arrivé qu'un bénévole m'appelle pour me dire « mais j'ai pas d'endroit, est-ce que l'entretien, je le fais chez moi ?» Vous voyez, il y a besoin de lieux neutres. Et donc d'avoir des entreprises qui puissent mettre à disposition des locaux, c'est extrêmement important pour moi. Et après, le levier du réseau, d'ouvrir un réseau qui permette, je vous donne un autre exemple. Il y a un patron d'entreprise qui m'a dit « moi je veux bien te donner un coup de main, je ne sais pas trop comment ». Il m'a mis à disposition une personne en tant que bénévole pour traiter les dossiers. Et il se trouve que c'était une équipe, il y avait une cinquantaine de personnes dans l'entreprise. C'était pas vraiment la joie de venir au boulot. Enfin, l'esprit d'équipe, c'était compliqué, etc. Et après, au bout d'un an et demi, deux ans, je sais plus exactement, il est revenu vers moi pour me dire « mais tu peux pas imaginer le bien que ça a fait ». Et je m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que le fait de s'être occupé de son prochain, ils se sont dit qu'ils étaient pas malheureux. Ça a relativisé, ça a permis de se dire, de créer du contact. C'est des gens qui habitent à côté de chez nous. Et puis après, c'est devenu de belles amitiés, etc. Tout en ayant ces projets de formation et de création. C'est ça qui me passionne.
Et si vous aviez une phrase pour définir la fondation, quelque chose là, ou un mot, je sais pas, comme vous le sentez.
Ah, il y a un cri du cœur, vous voulez?
Ouais, voilà, c'est ça.
Bah, c'est grandiose. Moi, je trouve ça, c'est un bouquet. C'est un bouquet parce que dans le travail, beaucoup de gens sont derrière des ordinateurs avec des tableaux Excel, et c'est aussi mon cas. Et quand je vois le bouquet humain, c'est énorme.
Non, mais c'est vrai.
Ça égaye des discussions, ça s'invite, c'est des amitiés qui naissent. Non, c'est extraordinaire. Et c'est un réseau inouï. On parlait tout de suite de carrosserie.
Oui, tout à fait.
Eh bien, ça y est, je sais qui lui a envoyé comme personne pour.
C'est clair.
En clientèle ou en partenaire avec d'autres carrosseries s'il veut développer. Il cherche un local, mais je le lance dans une discussion avec des gens du métier. C'est la force de la fondation.
Mais c'est clair.
Un autre exemple, un food truck, vous voyez, qui a été financé dans le sud de la France. Cette personne réussit très bien, et on s'est proposé avec la fondation, de le faire venir sur des lieux. Pour créer le dynamisme et partager des bons moments. C'est le plus heureux du monde parce qu'il vend de la prestation, il fait du réseau, il rassemble des gens. À Nantes, par exemple, je suis entouré de plusieurs personnes qui ont perdu leur travail. On a initié auprès d'un marché de fruits et légumes qui se passe au monastère de la Visitation à Nantes, un lieu de rencontre. Les gens sont là. Partagent ensemble leurs recherches, se confient ensuite parce que mutuellement, quand on est dans le besoin, on pense l'un à l'autre. et j'essaye d'y amener des personnes qui puissent aiguiller dans les recherches d'emploi des employeurs potentiels.
Okay.
Et ces gens-là ouvrent leur réseau. Par exemple, à Lyon, ça c'est, alors je sais, c'est une association qui fait ça à Lyon. Une fois par mois, ils invitent une personne à un dîner ou à un déjeuner. Et ce sont des gens qui mettent leur réseau en marche pour trouver un travail pour la personne.
Ah, c'est cool ça.
Et ça, ça avait commencé, c'était assez rigolo au départ, mm-hmm. parce que c'était trois personnes qui connaissaient une personne qui recherchait du travail. Et cette mm-hmm. personne, en fait, indépendamment, a fait une demande à ces trois personnes.
Okay.
Ces trois personnes se sont, ils se sont échangés cette demande et se sont dit, mais ah oui, il t'a demandé toi aussi, bon bah attends, on va se faire un truc comment, on va se faire un dîner, un déj.
Ouais.
Et du coup ils sont partis tous les quatre déjeuner et ils ont ouvert leur réseau pour cette personne là et il y a eu un reboudissement qui est extraordinaire et cette personne là a retrouvé un travail. Alors je connais pas exactement les chiffres, mais je sais qu'ils aident des gens à retrouver du travail comme ça une fois par mois.
Okay.
Et c'est un gros réseau.
Okay.
Qui s'est ouvert.
D'accord.
Voilà, moi c'est la force de la fondation, c'est de créer du réseau.
Cette fondation, elle a été reconnue en 2006 comme étant d'utilité publique. Elle est déployée sur tout le territoire français grâce à l'aide de 1000 bénévoles. Elle a une centaine de partenaires, elle accompagne 400 personnes chaque année et la durée moyenne d'un accompagnement est de 2 ans. En 2025, au Havre, 13 projets ont été accompagnés, représentant 75 000 euros de subventions attribuées. Au service de parcours de formation et à la création d'entreprises, car c'est une fondation qui soutient autant la formation pour la reconversion que la création d'entreprises, donc l'indépendance. Si je retourne au cœur de l'histoire du début de mon podcast, lorsque je marchais vers la CCI, blablabla, reprenons. Après m'être présentée à l'accueil, je me suis tranquillement dirigée vers l'ascenseur pour me rendre où ? Eh bien là où on m'avait invitée du coup. À la réception du bilan 2025 de la Fondation de la Seconde Chance. Et oui, vu sur le bassin du commerce du Havre, coucher de soleil, petit four et bulles, nous avons été accueillis comme des rois par Isabelle Bacha, déléguée de la Fondation au Havre. Elle nous a fait un discours rempli d'espoir, de détermination et surtout d'engagement. J'y ai perçu chez cette femme l'éclat de l'incarnation de sa mission. Elle n'est pas là par hasard, elle est là car c'est sa voix. Et c'est son engagement. Et comme je vous le disais, nous avons été accueillis en grande pompe, comme on dit. Et pourquoi cela ? Eh bien pour célébrer. Car oui, les victoires, les avancées ou même les petits pas se célèbrent. Avancer, ça s'inscrit parfois dans des détails, ou parfois dans des grandes choses. Et il est donc nécessaire de savoir le voir. Et ce soir-là, j'ai croisé trois victoires, deux hommes et une femme, ayant tous les trois slalomé avec la vie. Ils ont été accompagnés par la Fondation pour ouvrir un nouveau chapitre. Trois lauréats ont été récompensés pour des projets porteurs de sens et d'impact. Tout d'abord, une carrosserie mobile permettant d'apporter des services de réparation directement au plus près des personnes et des territoires. Et ça, c'est le projet de Vivien Richard. Ensuite, une entreprise de reconditionnement de PC qui allie démarche écologique, accessibilité numérique et insertion professionnelle. Ce projet, c'est celui de Franck Labbé. Et pour finir, un projet à destination des enfants, présentant des troubles de neurodéveloppement. Autour d'une boîte à outils sensorielle qui permet d'enregistrer des souvenirs apaisants, dans les moments de crise ou d'angoisse, ces souvenirs peuvent être réactivés pour aider l'enfant à retrouver le calme et la sécurité intérieure. Et bien ça, c'est le projet d'Adeline Firmin. Et je la laisse le présenter.
Alors, déjà, est-ce que juste vous pouvez vous présenter et m'expliquer un petit peu qui vous êtes, quel est un peu votre parcours et comment vous êtes finalement arrivé, sans forcément entrer dans les détails évidemment, mais comment vous êtes arrivé à la Fondation ?
Oui. Alors, je m'appelle Adeline Firmin, je suis fondatrice de Bulle de Joie et créatrice de ma boîte à souvenirs. Alors, en fait, j'ai deux enfants qui sont porteurs d'un trouble du neurodéveloppement, avec plusieurs troubles. Et en fait, bah, face au trouble, je me suis dit, mince, comment je vais faire, les crises émotionnelles, etc. Et il n'y a pas d'outils pour les enfants, en fait. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, je vais travailler pour trouver un outil à créer. Et bah, du coup, de fil en aiguille, J'ai eu des idées et j'ai mis sur papier. Et comme ça qu'est sortie ma boîte à souvenirs. Donc la boîte à souvenirs, c'est une boîte interactive et ludique qui permet à l'enfant, grâce au bouton joie, d'enregistrer ses propres souvenirs joyeux. Le parent aussi peut enregistrer des mots doux, etc. Et le but, c'est que quand l'enfant vit une émotion difficile, telle que l'anxiété, la tristesse ou la colère, il appuie sur le bouton de la couleur de son émotion qu'il vit, parce que c'est important qu'il reconnaisse son émotion. Et là, la boîte va lui diffuser alors un de ses propres souvenirs joyeux enregistrés dans la boîte, ce qui va favoriser l'auto-apaisement de l'enfant, le retour au calme, et qui pourra alors par la suite échanger avec le parent sur le pourquoi il était triste ou en colère, etc.
Et c'est, en gros, ça enregistre la voix de l'enfant quand il a raconté son souvenir. Après, ça le... J'oublie de parler dans le micro. Ça le ressort quand il y a des moments de peur, d'inquiétude, de stress, c'est ça en fait.
Oui, c'est ça.
Et est-ce que vous l'avez... Comment ça s'est passé, le processus pour créer cette boîte? Déjà, l'idée, elle est arrivée comment? Parce que oui, c'est une bonne idée, mais ça vient pas à l'esprit de tout le monde.
C'est vrai. Bah alors en fait... J'étais en reconversion professionnelle en tant qu'assistante commerciale dans un centre de formation. Et il fallait qu'on crée une entreprise fictive et un produit phare. Mmh. Et le diagnostic de mes enfants est tombé au même moment. Donc d'accord, c'est comme ça que je me suis dit, ok, bah, autant créer une entreprise. Comme ça, je vais connaître la pathologie de mes enfants. En même temps, ça me permet de travailler dessus. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai travaillé sur ça. Je me suis dit, en fait, quand je parlais avec mes enfants de souvenirs, etc., je voyais que ça leur donnait le sourire, ça les calmait. Et je me suis dit, comment on peut, du coup, prendre les souvenirs et les faire basculer pour que justement ça les apaise. Et de là, j'ai imaginé la boîte. Je me suis dit avec des boutons aux couleurs des émotions, pour que ça paraisse interactif et ludique. Et puis enregistrer la voix de l'enfant dedans en fait directement. Et puis que ça puisse lui faire une lecture aléatoirement de ses souvenirs.
Et ça va être pour quel type de pathologie, parce que c'est large quand même, les pathologies en neurodéveloppement. Oui. Enfin, moi, je sais pas forcément quoi.
Ok. Alors, en fait, donc, c'est à partir de 4 ans et puis, jusqu'à tout âge. Alors, de base, je l'ai créé pour les enfants porteurs de troubles. Donc, TDAH, autisme, oui, okay, vraiment dyslexie, etc. Et en fait, quand je suis partie voir les médecins, parce que du coup, ma boîte a été validée par des médecins, neuropsychologues, etc., ils m'ont dit que finalement, ça peut servir à tous les enfants, même les enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions, les enfants en hôpitaux qui n'ont pas leurs parents. À l'inverse, c'est les parents qui enregistrent dans la boîte. Enfin, vraiment, c'est un large public. Au final, ça ne s'arrête pas que aux enfants porteurs d'un handicap.
Ok. Et quand vous avez expliqué là tout à l'heure votre projet, j'ai trouvé ça hyper touchant parce que c'est des choses qui... En fait, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont de plus en plus mises en place pour... Déjà, il y a eu la reconnaissance des neurodéveloppements, enfin des troubles de neurodéveloppement, TDAH, TDA, enfin tous les TD, voilà. Et moi, quand j'y pense, quand j'étais enfant ou quand vous étiez enfant, c'était des choses qu'il n'y avait pas. On en entendait très peu parler. Et je pense qu'il y aurait tellement d'enfants qui sont aujourd'hui des adultes, qui auraient moins de difficultés dans certaines choses, certains liens sociaux, certains moyens de se développer ou façon de gérer la vie de manière générale, s'il y avait eu des outils comme le vôtre, ou si ça avait été mieux accompagné, mieux reconnu. Donc moi, je trouve que c'est un super... J'ai trouvé que c'était super comme... Et j'y penserai si... Oui. J'ai pas d'enfants, mais si quand j'ai des enfants, ils ont... Un TDAH ou autre, je penserais à la boîte à outils. Et je voulais juste vous demander en dernière question, c'est quoi le processus avec les médecins ou les neuropsys pour valider un projet comme ça? Ça se passe comment? Vous avez été accompagnée comment?
En fait, je me suis lancée un peu toute seule. Hein. Je suis partie. Moi, j'ai de la chance parce que mes enfants sont déjà suivis en structure.
Ouais.
Donc, je suis partie les voir directement en leur disant voilà, j'ai cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, j'ai fait une sorte de questionnaire. Et puis, en fait, ils ont répondu au questionnaire. Ils ont fait des interviews avec moi. Et c'est de là qu'ils m'ont dit mais en fait, on n'a pas d'outils. On travaille déjà sur les souvenirs, mes photos, etc. Et qu'en fait, votre idée, elle est géniale. Et puis, même eux, ils étaient choqués de me dire mais comment vous avez sorti ça, vous parents, puis que vous avez rien à voir du tout de base dans l'ingénierie ou quoi que ce soit, quoi.
C'est vrai?
Oui.
Bravo.
Donc oui, je me félicite aussi moi-même. Je suis super fière de ce que j'ai créé parce que franchement, mais moi, encore aujourd'hui, je me choque de me dire mais comment t'as fait? Enfin.
Et c'est quoi votre rêve pour ce produit? Vous aimeriez qu'il aille jusqu'où?
Alors moi, je voudrais que il aille partout dans le monde, idéalement, qu'il aide vraiment plein d'enfants. à la suite qu'ils puissent être vendus aussi dans les magasins et surtout reconnus par vraiment les médecins qui soient ouais. vraiment distribués dans les hôpitaux, dans les associations, enfin vraiment partout. Quoi.
Et vous avez un objectif là au moyen long terme, enfin genre sur les 6 mois, de où est-ce que vous pourriez le diffuser, le montrer?
Oui, alors là, bon, du coup, bientôt.
Comment on pourrait vous aider dans notre petite radio?
Oui. Voilà. Bah là, du coup, bientôt, je pars en Chine pour lancer la production, tout ça. Et alors, je me dis pour septembre, je pense sortir la boîte pour septembre. Et du coup, à la suite de ça, faire le salon du créateur par la suite. Et puis, bah après, lancer vraiment la promotion pour Noël, etc. Et bah essayer de. J'ai pas d'objectif vraiment. Comment dire? Je ne me suis pas fixée pour l'instant de boîte maximum, mais j'aimerais bien vendre au moins 500 boîtes les premiers mois. Les premiers mois, ouais.
Bah merci.
Finalement, en quittant cette soirée, je me suis fait une réflexion assez simple, mais qui a résonné plutôt longtemps, à vrai dire. On parle souvent du travail comme d'une contrainte, d'un poids, et parfois même d'une lutte quotidienne. Et pourtant, ce que j'ai vu ce soir-là, ce n'était pas du labeur, ce n'était pas du tripalium, c'était autre chose. C'était des trajectoires cabossées, oui, avec des détours, des chutes, des moments de doute, mais c'était surtout des personnes qui, à un moment donné, ont décidé de ne pas s'arrêter là, de ne pas laisser leur histoire s'écrire sans elles. Et ce que fait la fondation de la seconde chance, au fond, ce n'est pas simplement financer des projets. C'est venir dire à quelqu'un, en le regardant droit dans les yeux, « Ton histoire n'est pas terminée. » C'est redonner une légitimité à rêver, à essayer, à construire. Parce que travailler, ce n'est peut-être pas produire, ce n'est peut-être même pas réussir. Travailler, ça peut être seulement trouver un endroit où l'on se sent à sa place, où on se sent libre de s'exprimer, d'être soi, et où l'on peut créer, qu'importe le chemin et qu'importe la manière. L'idéal du travail, c'est de trouver un endroit où on fait ce qui a du sens et où l'on peut, malgré tout ce que l'on a traversé, remettre du mouvement dans sa vie. Alors non, le travail, ce n'est pas forcément une souffrance. Parfois, le travail, ça devient une réparation, une reconquête et même une seconde chance. Et ça, je crois que ça change tout. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très bonne journée. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Fondation de la Seconde Chance dans la description. Et à bientôt !